Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Anne-Laure Janson et voici vos manchettes. 5 personnes intronisées au temple de la renommée paralympique. Aide médicale à mourir, Ottawa juge le dossier clos. Une alternative intéressante au CHSLD. Et voir sans les yeux, une visite au centre Aster à Saint-Louis-du-Haha. Un billet de banque pour personnes non-voyantes en Australie. Le Comité international paralympique a annoncé les 5 personnes qui seront intronisées au temple de la renommée paralympique, VISA, pendant les Jeux de Rio 2016. Les athlètes Junichi Kawai, Chantal Petitclair, Franz Nietlipar et la feu Neroli Suzanne Farrell seront intronisées le 9 septembre, ainsi que l'entraîneur Martin Morse. Lancé en 2006, le temple de la renommée paralympique vise à reconnaître les athlètes et entraîneurs retraités qui ont eu dans leur carrière d'excellents résultats sportifs, un esprit sportif et une participation à des activités communautaires. Cette année, seuls les athlètes et entraîneurs impliqués dans les sports d'été ont été pris en considération. Monsieur Kawai est le paranageur qui a connu le plus de succès du Japon, après avoir récolté 21 médailles, dont 5 d'or en 6 Jeux paralympiques de 92 à 2012. Kawai a aussi fondé l'Association des Paralympiens du Japon en 2003. Chantal Petitclair est la paralympienne d'athlétisme la plus décorée avec 21 médailles, dont 14 en or. Petitclair est aujourd'hui la chef de mission d'équipe Canada pour les Jeux paralympiques de Rio. Le multitalentueux Suisse Nietlipar a participé à 9 Jeux paralympiques, entre 1976 et 2008. Il a remporté 14 médailles d'or. Le Suisse est présentement conférencier de motivation et fondateur du Carbon Bike, le principal producteur mondial de vélos à main. L'Américain Morse a agi comme entraîneur-chef de l'équipe de course en fauteuil roulant sur piste et sur route de l'Université de l'Illinois entre 1981 et 2004, une période qui a vu ses athlètes gagner 52 médailles paralympiques. La talentueuse néo-zélandaise Farrell sera elle aussi intronisée, mais à titre posthume. Elle a fait de l'athlétisme et du tir à l'arc à ses deux premiers Jeux paralympiques entre 1972 et 1980. Et 4 ans plus tard, elle est devenue la première athlète avec une déficience à participer aux Jeux olympiques de Los Angeles. Le gouvernement Trudeau estime être parvenu à atteindre un juste équilibre entre l'accès à l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de maladies incurables et la protection des plus vulnérables en adoptant son projet de loi C-14 au mois de juin. Il n'est donc pas question de rouvrir ce dossier délicat, malgré l'appel pressant d'une femme de 70 ans du Québec atteinte de sclérose en plaques qui a décidé de se laisser mourir de faim et de soif. Cette dernière n'avait pas accès à l'aide médicale à mourir parce que son cas ne répondait pas aux critères de la loi fédérale. Sa mort n'était pas raisonnablement prévisible. Réagissant au cas d'Hélène, le nouveau Parti démocratique a soutenu hier que cette situation inquiétante était prévisible compte tenu du caractère contraignant de la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir dans le cas des personnes qui souffrent d'une maladie incurable mais dont la mort n'est pas imminente. Selon la députée de Saint-Hyacinthe-Bagot, Brigitte Sanssouci, le gouvernement fédéral devra tôt ou tard se pencher à nouveau sur ce dossier, d'autant plus que la loi adoptée par le gouvernement Trudeau fait déjà l'objet d'une contestation devant les tribunaux. L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, ARIC, s'était arrêtée hier à Gatineau afin de sensibiliser les élus aux défis auxquels fait face le réseau. Les centres intermédiaires sont un mi-chemin entre les soins à domicile et l'hébergement en établissement. Lorsqu'un patient ne peut plus rester seul ou être pris en charge par sa famille, il peut choisir de venir vivre au sein d'une ressource intermédiaire. Elles offrent une alternative au réseau public. Ces ressources intermédiaires d'hébergement répondent à 4 types de clientèle : problèmes de santé mentale, déficience intellectuelle, autisme, personnes âgées en perte d'autonomie et déficit physique et handicap. Luc Valérand, directeur des services et aux membres et des communications pour l'ARIC, déclare « Au Québec, le gouvernement a commencé à réduire le nombre de places dans les CHSLD. Les ressources intermédiaires ne font pas exception, alors que leur taux d'occupation est de 99% et que plus de 4000 personnes attendent une place en CHSLD. Ces ressources intermédiaires sont régies par une entente avec le gouvernement du Québec, négociée en 2012. L'entente, faisant à nouveau l'objet de négociations depuis son échéance en mars 2015, l'ARIC est préoccupée par l'attraction et la rétention de sa main-d'œuvre et la formation de son personnel. Monsieur Valérand propose plusieurs améliorations, dont un fonds pour les formations du personnel et un cadre légal pour assurer une standardisation sur le territoire québécois. » Un groupe de personnes atteintes d'une déficience visuelle du Bas-Saint-Laurent s'est donné rendez-vous à Saint-Louis-du-Haha pour une visite du centre d'interprétation scientifique Aster, un moyen de prouver que malgré le handicap visuel dont ils sont touchés, il est tout de même possible de profiter des attraits touristiques offerts pendant la belle saison. C'était une sortie inattendue pour ces 27 personnes handicapées visuelles. Malgré leur vision très très diminuée, elles ont visité le centre et son observatoire à l'aide de leur canne blanche ou avec leur chien guide. Une expérience à la fois originale et inoubliable. Pour le directeur général du centre Aster, Stéphane Mador, un handicap n'entraîne surtout pas un manque de curiosité. Pour la directrice de l'organisme handicapé Bas-Saint-Laurent, Huguette Vigneault, cette visite éducative est aussi une manière de briser l'isolement. Les Aliens seront munis d'une nouvelle fonctionnalité spécialement conçue pour les personnes non-voyantes. C'est la première fois qu'un billet comporte un élément tactile destiné à faciliter la vie des non-voyants. À partir du 1er septembre, les nouveaux billets de 5 $ australiens seront sur le marché. Cette particularité permettra aux personnes aveugles ou malvoyantes de différencier la valeur du billet des autres coupures. Ce changement est l'initiative d'un jeune Australien de 15 ans, du nom de Connor McLeod. Épaulé par sa mère, l'adolescent non-voyant a lancé une pétition en ligne il y a 3 ans pour demander l'ajout de la fonctionnalité sur les billets de 5 $. Sa mère Ali Lancaster a expliqué la raison de leur démarche. « Oui, les billets sont déjà de tailles différentes, ça peut aider un peu, mais si nous n'avons pas dans notre portefeuille un billet de chaque montant, comment peut-on comparer et savoir sur quel billet se fier pour en connaître la valeur ?» La pétition a été signée par plus de 57 000 personnes, ce qui eut pour effet d'inciter la Banque de réserve australienne en charge de l'impression de la monnaie d'aller de l'avant avec la proposition du jeune homme et de sa mère. Dans un communiqué, l'adolescent a affirmé « Je suis un jeune homme ordinaire, je ne me considère pas comme un militant, mais si je tombe sur quelque chose qui ne me semble pas juste, je préfère passer à l'action plutôt que de me plaindre. » Pour souligner l'initiative de Connor McLeod, le designer chargé de créer ce nouveau billet, Aaron Taylor, a même proposé une édition spéciale du billet de 5 $ à l'effigie de l'adolescent. Et voilà, c'était votre dernier bulletin du handicap en ce qui me concerne, en ce jeudi 1er septembre sur Canal N, la radio de Vues et Voix. Vous, chers organismes, envoyez-nous vos actualités, comme toujours, au canalm@vuesetvoix.com et des liens vers les nouvelles de notre bulletin sont aussi disponibles au canalm.vuesetvoix.com. Salut !